Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et voici donc la première grève contre la réforme des retraites en France. Elle a lieu aujourd'hui dans les transports de la région parisienne au sein de la RATP. Paris est congestionné ce matin. Les grévistes veulent défendre leur retraite. Le Premier ministre leur a répondu quasiment directement hier soir. Vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous ferons aussi le point sur la mobilisation pour empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris. 3 mois après le lancement d'une souscription, il manque 4 millions de signatures à l'opposition.
Nous irons ensuite en Tunisie. À 2 jours de la présidentielle, le favori des sondages est en prison pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.
Et puis vous découvrirez une journaliste d'Investigation maltaise. Elle a reçu hier le prix de l'indépendance par Reporters sans frontières.
Après cette édition et suite à la mise en examen du président de l'Assemblée nationale, Frédéric Saïs se demandera pourquoi la classe politique est si indulgente avec Richard Ferrand. Ce sera son billet politique dans un gros quart d'heure. Mais l'on commence tout d'abord par cette interview du responsable d'Air Caraïbes, l'un des repreneurs sérieux pour la compagnie aérienne Aigle Azur qui est en difficulté financière en ce moment. L'offre d'Air Caraïbes, tout comme les 13 autres, seront analysées par les syndicats aujourd'hui en comité d'entreprise. Si Air France propose de reprendre l'activité moyen courrier d'Aigle Azur et 70% de ses salariés sous condition, Air Caraïbes s'intéresse plutôt à l'activité long courrier d'Aigle Azur et ne reprendra qu'une centaine de salariés sur les 1150 que compte la compagnie. Répondant exceptionnellement à un micro, le président du directoire d'Air Caraïbes et de French Bee, Marc Rochet, a évoqué cette offre pour France Culture. Il est avec Hakim Kasmi et vous allez l'entendre, les questions sociales, dit-il, ne l'intéressent pas.
Dans Aigle Azur, il y a une petite partie d'activité long courrier dans laquelle malheureusement Aigle Azur n'a pas rencontré le succès pour tout un tas de raisons diverses et complexes. C'est cette partie-là qui peut nous intéresser. 2 avions qui sont compatibles avec notre flotte, sinon on n'aurait pas regardé. Des personnels qui ont leurs compétences et puis des slots. Donc on fera tout pour réussir si ça nous est attribué.
Alors sur les salariés, bien sûr, les conditions ne seraient plus les mêmes si vous les repreniez.
Oui, mais ça, alors écoutez, c'est des sujets médiatiques, complètement sociaux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler des gens compétents, motivés. C'est comme on l'a fait depuis le début d'Air Caraïbes, les rémunérer correctement, les intéresser très fort aux résultats. On parle d'avenir, on ne regarde pas le passé et encore moins le code de l'aviation civile d'il y a 50 ans.
Voilà, c'était le président du directoire d'Air Caraïbes, interrogé par Hakim Kasmi pour France Culture. Le tribunal d'Evry donnera sa décision sur l'éventuelle reprise d'Aigle Azur lundi prochain. Eux veulent défendre non pas leur poste, mais l'après-carrière. Les salariés de la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens, les salariés sont nombreux aujourd'hui à y faire grève. Ils protestent contre la réforme à venir des retraites. Ils défendent leur régime spécifique. Le Premier ministre leur a répondu hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Édouard Philippe a insisté sur la méthode de cette réforme jusqu'au vote du texte avant l'été. Il a également insisté sur la dimension universelle des retraites. Il estime ainsi que les salariés de la RATP devront faire un effort. Édouard Philippe a fait passer le message via une comparaison.
Le chauffeur de bus du Havre ou de Bordeaux ou d'où vous voulez, il a parfois exactement le même travail que le chauffeur de bus de la RATP, dans les mêmes conditions, en tout cas avec des contraintes approchantes. Et il a un régime de retraite qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on ne peut pas essayer, alors qu'il n'y a pas d'urgence, essayer de refonder totalement un système pour faire en sorte qu'il soit universel? Chaque euro cotisé par chaque Français produit le même effet, ce qui est un élément de justice extrêmement important, ce qui permet aussi pour beaucoup de Français de passer d'un métier à l'autre, d'un statut à l'autre, sans subir les aléas au moment de sa retraite.
Un discours qui ne convainc pas les syndicats à la RATP. La grève aujourd'hui sera massive, Anne-Laure Jumet.
On n'avait pas connu une mobilisation aussi forte à la RATP depuis 12 ans, 18 octobre 2007. C'était contre la réforme des régimes spéciaux sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, la réforme prévoit la suppression pure et simple de ces régimes, même si le Premier ministre a assuré hier qu'il prendrait le temps d'accomplir cette transition. Inacceptable pour Olivier Davoise, secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus, car pour lui, ce système avantageux de retraite, et notamment le départ anticipé pour les conducteurs de métro et de bus, permet de compenser la pénibilité du métier.
En travaillant 5 à 10 ans de moins en faisant un métier pénible, comme par exemple conducteur de bus, cela permet d'éviter d'en subir les conséquences au niveau de la santé, qu'elles soient physiques ou psychiques. Donc là, on veut nous imposer le maintien des contraintes liées au métier, qui est un métier de service public, tout en nous supprimant toutes les compensations qui permettaient d'encaisser les contraintes liées au métier du service public. Par exemple, chez les machinistes receveurs de la RATP, les machinistes receveurs, ce sont donc les conducteurs de bus, au bout de 25 ans de carrière, c'est un machiniste sur cinq qui est en inaptitude.
Et au-delà de cette journée, il faut s'attendre à de nouvelles perturbations à la RATP, tout comme d'ailleurs à la SNCF. Une date est déjà programmée le 24 septembre prochain. Ce jour-là, la CGT appelle à la mobilisation nationale contre la réforme des retraites.
Et d'ici là, aujourd'hui, déjà 10 lignes de métro ne fonctionnent pas à Paris. Le résultat d'ailleurs ne s'est pas fait attendre. Actuellement, il y a plus de 250 km de bouchons cumulés sur les routes d'Île-de-France, un niveau exceptionnel selon la direction régionale des routes. Google fait un chèque de près d'1 milliard d'euros à l'État français. Le géant du numérique souhaite ainsi régler définitivement ses vieux litiges avec l'administration fiscale et avec la justice. Il s'agit là de taxes ainsi que d'une somme d'argent versée en échange d'un arrêt des poursuites en France. Voilà 3 mois que tout un chacun peut voter sur Internet pour soutenir un éventuel référendum sur la privatisation d'ADP, Aéroports de Paris. L'initiative est lancée par toute l'opposition, ou presque, contre le projet du gouvernement. À ce jour, un peu plus de 760 000 signatures ont été recensées. Il en faut 4,7 millions pour déclencher un référendum. La mobilisation se tasse, Rosalie Lafarge.
Il faudrait 17 000 signatures par jour pour atteindre le nombre requis. Depuis cet été, la moyenne quotidienne ne dépasse pas les 4 000. Mais les initiateurs de la pétition veulent y croire. La mobilisation va reprendre en cette rentrée. Au Parti communiste, on compte notamment sur la fête de l'humanité qui débute aujourd'hui pour engranger de nombreux soutiens. Cécile Cukierman est sénatrice et porte-parole du PCF.
Il y a plusieurs points identifiés donc avec des ordinateurs et donc des possibilités d'enregistrer son soutien directement sur Internet. On aura également un certain nombre de formulaires officiels que les personnes pourront remplir. On a déployé en tout cas tous les outils pour que chacune et chacun puisse enregistrer son soutien et ensuite, dès lundi, ils puissent aussi, autour d'eux, faire signer et enregistrer les différents soutiens auprès du site du ministère de l'Intérieur.
Les opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris espèrent franchir le palier du 1 million de signatures dans les prochains jours, palier plus important que prévu puisque la réforme constitutionnelle présentée fin août prévoit d'abaisser le seuil requis pour organiser un RIP justement à 1 million d'électeurs.
La réforme constitutionnelle n'est pas encore votée, donc la constitution qui s'applique, c'est celle qui exige d'atteindre les 4,7 millions. Il y aura bien évidemment, une fois le seuil d'1 million passé, une interpellation auprès du président de la République pour savoir maintenant est-ce qu'il acte ce million ou est-ce qu'il veut aller jusqu'au bout. Ça sera une bataille politique. Mais dans tous les cas, nous continuerons de nous mobiliser jusqu'aux 4,7 millions parce que telle est la règle du jeu, quoi qu'on en pense.
Et il reste désormais 6 mois pour rassembler les quelques 4 millions de signatures manquantes.
Les époux Balkany, Patrick et Isabelle Balkany, sauront cet après-midi s'ils sont ou non condamnés dans le premier volet de leur procès concernant les accusations de fraude fiscale. Patrick Balkany, élu à Levallois-Perret, risque 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Son épouse Isabelle Balkany, 4 ans, dont 2 fermes.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La présidentielle tunisienne a lieu dans 2 jours, ce dimanche. 26 candidats sont toujours en lice.
Et le favori des sondages est en prison depuis près de 3 semaines. Nabil Karoui est un sulfureux patron de télévision qui pourrait devenir le futur président tunisien. À cela près qu'il est poursuivi pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, Maureen Mercier.
On le surnomme souvent le Berlusconi tunisien. Sa popularité la tient de son émission dans laquelle on le voit sillonner le pays pour aider les plus démunis. Ziad Kershen, éditorialiste et analyste politique.
C'est une forme de populisme qui joue sous la misère des gens. Imaginez que la première chaîne du pays TF1 ne reconnaisse plus la CSA et se comporte comme une chaîne voyou, totalement au service de son patron, qui lui fait de la propagande 10 heures par jour. La chaîne de Karoui n'a fait que ça pendant 3 ans.
Nabil Karoui martèle qu'il est un candidat anti-système, que lui saura abolir la pauvreté, que les partis traditionnels ont échoué. Il y a 3 semaines, coup de théâtre, Nabil Karoui est inquiété par des procédures judiciaires depuis des années, mais là, il est arrêté, emprisonné en détention préventive. Pour Ziad Kershen, il ne fait aucun doute que le pouvoir a voulu l'écarter, mais cela s'avère parfaitement contre-productif.
Toute cette opération-là va le mettre sur une rampe de lancement extraordinaire.
Nabil Karoui est un publicitaire. Il sait retourner ses mésaventures en opportunités. Son porte-parole, Abdelaziz Belkodja, est gonflé à bloc.
Avec la force du suffrage universel, M. Karoui sortira de prison Pour nous, c'est l'armée qui transférera M. Karoui de la prison à la présidence. Ce sera quand même une sacrée première dans l'histoire.
La Cour de cassation tunisienne doit examiner aujourd'hui un recours contre l'arrestation de Nabil Karoui, selon ses avocats. Si la justice le maintient en détention, la situation risque de devenir surréaliste. Dimanche, l'homme d'affaires pourrait passer le premier tour depuis sa prison.
C'était Maureen, merci à Tunis pour France Culture. Aux États-Unis, le temps est encore au débat. Les 10 prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 se sont affrontés cette nuit face caméra. Un trio est toujours en tête dans les sondages, le socialiste Bernie Sanders, la progressiste Elizabeth Warren et l'ancien vice-président Joe Biden. De l'avis du président Donald Trump, c'est d'ailleurs lui, Joe Biden, qui pourrait sortir gagnant de cette primaire. La déforestation a bondi au Brésil de près de 70% depuis janvier dernier, depuis en fait l'arrivée au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro. Dans la forêt amazonienne ces derniers mois, une nouvelle ruée vers l'or se profile. Pour France Culture, Olivier Poujade s'y est rendu. Il a rencontré un chercheur d'or écossais. John Boyle organise l'approvisionnement des orpailleurs.
Les chercheurs d'or ont décidé de retourner à la mine pour voir ce qui allait se passer. Ils considèrent aujourd'hui qu'ils ont un ami à Brasilia. Ils y ont peut-être 1000 ennemis, mais maintenant ils ont un ami, et c'est le plus influent. Dans ses discours politiques, Bolsonaro estime que les Brésiliens ont le droit d'exploiter le territoire national. Et il parle beaucoup du Roraima. Je n'ai jamais entendu un président parler autant du Roraima.
Il en parle pourquoi ?
Pour son potentiel, dire ce que l'État pourrait offrir comme opportunité, comment la région a été mal administrée, comment elle a été verrouillée par les environnementalistes, les anthropologues, des trucs comme ça. Lui, instinctivement, il se dit « Oh, tout ça, c'est les gauchistes qui ont laissé le Roraima dans cet État ». On assiste à la grande rencontre entre deux groupes qui ont la même philosophie, les bolsonaristes, qui sont au Parlement, et les chercheurs d'or. Et les chercheurs d'or sont unanimes dans leur soutien à Bolsonaro. Ils le voient comme un sauveur, le sauveur de la patrie.
Ce chercheur d'or écossais est à retrouver en longueur ce soir dans le grand reportage d'Olivier Poujade intitulé « Bolsonaro, l'Amazonie en ligne de mire ». Un grand reportage réalisé par Annie Bro. Il est présenté par Aurélie Kiefer et sera donc diffusé à partir de 17h ce soir. Trois prix, trois journalistes récompensés et à chaque fois trois femmes. L'organisation RSF Reporters sans frontières remettait hier soir ses prix pour la liberté de la presse. Une Saoudienne, une Vietnamienne et une Maltaise ont été récompensées. La Maltaise, Caroline Musca, est la seule à avoir pu se déplacer, à avoir pu quitter son pays pour recevoir la récompense à Berlin. Elle a créé un média d'investigation moins de 2 ans après l'assassinat à Malte de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Et elle souhaite aujourd'hui poursuivre son travail. Ludovic Piétenu était pour France Culture à la cérémonie.
Caroline Musca, from Malta.
Voilà un hommage, un prix à l'opposé des insultes qu'elle reçoit tous les matins dans sa boîte mail. Pour sa consœur Daphne Caruana Galizia, c'était son chien qu'on égorgeait ou sa maison qui était incendiée avant qu'une charge de TNT ne fasse exploser la petite voiture qu'elle conduisait. Dans quelques jours, cela fera bientôt 2 ans.
Cet événement a été un choc, donc on s'est dit qu'il fallait que ça change. J'ai rassemblé quelques personnes et on a lancé The Shift News pour poursuivre le travail que Daphne Caruana Galizia avait commencé.
On pourrait traduire The Shift News par l'information qui va changer la donne. Ce sont uniquement des enquêtes que Caroline Musca, 45 ans, mène seule sur l'île avec l'aide depuis l'étranger de 7 autres journalistes maltais et avec la coopération de plusieurs rédactions.
Dans la plupart des enquêtes que mènent mes collègues en Europe, à un moment ou à un autre, ils tombent toujours sur Malte. Et on échange, je partage mes informations, eux me donnent ce qu'ils trouvent. Malte, c'est vraiment ces temps-ci la plaque tournante pour la corruption et le blanchiment d'argent.
Et quasiment en toute impunité, quand 90% des médias maltais sont la propriété des responsables politiques locaux.
Les étudiants journalisme n'ont à la sortie de leur école quasiment aucun endroit où ils ont envie d'aller. On travaille là encore avec des rédactions européennes, on les forme à l'investigation, au droit de la presse pour qu'ils lancent un journal. Pour qu'on ait un jour, je l'espère, des médias qui surveillent de près le pouvoir politique dans ce pays.
Dans le classement de la liberté de la presse, Malte, pays membre de l'Union européenne, est à la très médiocre 77e place. places sur 180 pays, 30 places de perdues ces deux dernières années.
Là aussi, il s'agit d'une liberté arrachée, combattue. Un judoka iranien a dû fuir son pays sous la pression des autorités publiques. Elle l'obligeait à perdre tous ses combats pour éviter de retrouver en compétition son concurrent israélien. Saïd Moley, champion du monde 2018, a donc quitté Téhéran. Il s'est réfugié en Allemagne dans un lieu tenu secret. Pour Radio France, Fabrice Rigobert a pu le rencontrer et il témoigne.
Dans son polo noir à manches courtes, un peu trop étroit pour son imposante musculature, Saïd Moley, les oreilles boursouflées par de nombreuses joutes sur les tatamis, arrive d'un pas décidé, presque comme s'il s'apprêtait à combattre. Il faut dire que depuis 15 jours, le judoka a continué à résister à la pression de ceux qui lui avaient demandé d'abandonner au championnat du monde.
Ils m'ont dit que je pouvais rentrer en Iran, qu'il n'y avait pas de problème, mais quand j'ai changé de numéro de téléphone et que j'ai refusé de leur répondre, le président de la fédération a fait passer le message qu'il fallait me convaincre d'arrêter de donner des interviews.
Saïd Moley sait aujourd'hui qu'il ne peut plus rentrer chez lui ni voir sa famille. Son regard est triste lorsqu'il pense à ses parents, ses frères et sœurs.
J'ai fait ce choix. Je ne peux plus voir ma famille. La réalité, c'est que je ne peux même plus leur parler. Je suis obligé de passer par un ami pour avoir de leurs nouvelles.
À 27 ans, Saïd Moley n'a qu'une idée en tête, décrocher le titre olympique l'année prochaine à Tokyo sous les couleurs de l'équipe des réfugiés de la Fédération internationale ou sous les couleurs du CIO, prêt à affronter tous les adversaires, y compris le champion du monde israélien.
Bien évidemment, je le ferai. J'ai dû accepter la loi iranienne quand je vivais en Iran. Maintenant, je suis libre. Je veux combattre librement, respecter la charte olympique pour gagner.
Saïd Moley n'a pas demandé l'asile politique. Il attend maintenant de voir quelle décision la Fédération internationale et le CIO prendront à l'encontre des autorités sportives de son pays.
C'était Fabrice Rigobert pour France Culture. Quelques mots de la météo de ce vendredi qui débute avec des pluies matinales sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Ailleurs, le soleil sera bien présent dès ce matin et il faut compter 19 degrés à Lille, 20 à Rennes et Paris, 22 degrés à Strasbourg et Bordeaux. Déjà ce matin, 28 degrés à Marseille.